André Lichtenberger, Poupée. 1. Mademoiselle Marthe. Et d'abord, Mademoiselle Marthe est une demoiselle. L'an dernier, elle avait encore les cheveux dans le dos et des robes abrégées au bas du mollet. Elle portait des tabliers obligatoires, disparaissait au grand dîner, allait se coucher à 9h30 par ordre. D'autres tares aggravaient, étalaient, rendaient plus amère son infamie. C'était une pitoyable fillette, au plus une petite jeune fille. Maintenant, c'est une jeune fille sans épithète, je disais mieux, une demoiselle. Vers l'âge de 10 ans, elle en avait déjà l'âme. Il a fallu 5 années pour ouvrir les yeux à sa mère, très imparfaitement. Maintenant, il s'agit de les ouvrir à l'humanité, au moins à la portion fortunée de l'humanité, qui a l'honneur de serrer ses mains encore un peu rouges, d'ouïr sa voix toujours légèrement aboyante, de contempler sa taille en formation et ses joues au teint insuffisamment limpide. Portion de l'humanité, portion qui ignore ton bonheur, regarde le papillon qui est sorti de la chrysalide, regarde-le, en vis-tu jamais de mieux appris, de mieux éduqué, en vis-tu jamais qui tint moins de la chenille. Elle fut chenille, Mademoiselle Marthe, c'est vrai, car, hélas, on n'en est pas à l'âge de 15 ans en robe longue. Elle fut chenille, Mademoiselle Marthe. Douloureux est ce souvenir, mais il s'enfonce, il s'enténèbre, il disparaît dans la nuit des temps. Mademoiselle Marthe s'est composée un maintien. Elle s'est construite des idées. Elle s'est échafaudée une conversation. Et elle dirige sa tenue, ses actes et ses paroles, selon une consigne inflexible que sa volonté lui a imposée. Et de cette consigne, le mot d'ordre est « écraser la chenille ». Regardez Mademoiselle Marthe faire son entrée dans un salon. Elle enraye ses jambes entraînées à des foulées inharmonieuses. Elle arrondit ses bras maigres qui volontiers pendrait trop gauche à l'entour de son corps. Elle relève légèrement sa jupe afin qu'on puisse la croire tout à fait longue. Elle se renverse le buste en arrière pour faire valoir les richesses de ses proportions. Cela lui permet en même temps de respirer, ce qui lui serait autrement tout à fait impossible. Car elle sait si bien sangler, malgré les objurgations maternelles, qu'elle a la laine courte, mal de tête et le visage apoplectique. Digne et grave, elle s'assied sur une chaise, envieuse du fauteuil. Elle disperse quelques signes protecteurs au-dessus de celles que l'an dernier étaient presque ses contemporaines, mais qu'elle dépasse maintenant de toute la hauteur de son chignon et du dernier volant de sa robe. Elle s'isole de ses êtres inférieurs, voisine avec les vieilles dames, écoute les gros messieurs, fraternise avec les jeunes mamans. Le 13 janvier dernier, à 4h37, un vieux magistrat ramolli l'appelait « Madame ». Elle a failli en avoir une suffocation de joie. Et toute la nuit, elle s'est répétée « Madame » avec ivresse. Mais le 16 à 3h, elle a éprouvé une des humiliations les plus cruelles de sa vie. Sa mère a déclaré en public qu'elle avait exactement l'âge de Mademoiselle Léonie, qui, il y a un an, baissant la voix, jouait encore aux poupées. Au moins, le bruit ignominieux en a couru. Mademoiselle Marthe a fait de nombreuses observations sociales. Elle a conçu qu'il était difficile de parler de choses que l'on ne connaît point et d'aborder des sujets dont on ne soupçonne pas le premier mot. C'est une preuve de grand bon sens. Mademoiselle Marthe, pouvant parler avec talent, s'est appliquée à se taire avec génie. Ses silences sont savants, expressifs, spirituels. Elle a un silence intéressé quand on parle de littérature groenlandaise, un silence dégoûté quand il s'agit de politique, un silence séraphique dans les questions d'art, un silence maternel, un silence prude, un silence modeste selon les besoins du jour. Et elle en est récompensée, ayant subi sans broncher les campagnes d'Afrique du vieux colonel de Keldebris. Elle a entendu émettre cette opinion flatteuse que Mademoiselle Marthe n'était pas une bête. Quand Mademoiselle Marthe prend la parole, c'est qu'elle est sûre de son sujet, sans que nul ne pourra la prendre en défaut. Ainsi exprime-t-elle sans crainte son admiration pour les carotides du Louvre et la moquette de la statue qu'achève un sculpteur ami de sa mère. Et entendant parler d'Anoto, elle a déclaré pertinemment que c'était une des plus jolies actrices de l'Odéon. Elle prend un maintien pudique quand on parle des effrontés et sourit avec un air d'entente quand il s'agit du carnet du diable qu'elle confond avec les pilules du même. Oh, elle ne se consolera jamais d'avoir pris un romancier italien pour un coiffeur. Et la Duse pour un affluent du Pô. Si elle soupçonnait le nombre de gaffes qu'elle commet chaque jour, malgré sa prudence, elle serait emportée en peu de jours par une fièvre typhoïde. Elle aurait grand tort, car ce sont en somme de petits malheurs. Mais ce qui est plus fâcheux, c'est que Mademoiselle Marthe s'efforce tant de paraître autre chose qu'elle n'est. Oh, je ne sais si elle aura beaucoup de génie. Il se pourra bien qu'elle doive être une ancienne petite sotte bête, mais je puis lui assurer que si elle demeure en ce monde, elle atteindra l'âge de 18 ans et même celui de 20. Alors pourquoi s'affubler maintenant d'années supplémentaires dont elle sera si désireuse de se débarrasser plus tard? Mademoiselle Marthe s'éviterait sans peine beaucoup de petits déboires et de petits soucis et un stock appréciable de ridicules. Poupée de Mademoiselle Luce. Oh, il suffit de voir Mademoiselle Luce faire son entrée derrière sa mère comme l'auguste vaisseau derrière l'humble remorqueur. Cela suffit pour concevoir que dans l'univers, elle est un être unique. Elle dit bonjour avec supériorité, s'assied en majesté, regarde avec génie le bout de ses bottines ou contemple d'une manière distinguée les régions cises au-dessus des têtes de ses voisins. Cela veut dire, comme si elle le criait, moi je pense, moi je rêve, qu'importe le reste. L'humanité se compose de deux catégories d'êtres. L'une l'aristocratie, qui est Mademoiselle Luce, et l'autre la plèbe, qui est ce qui n'est pas elle. Mademoiselle Luce siège dans un salon comme Dieu au milieu des anges, comme un académicien dans une bande de marmots, comme un sage au sein d'une chambre de députés. Elle s'abîme dans la profondeur de ses pensées, dans la sublimité de ses rêveries, dans le charme de ses sentiments. Au-dessous d'elle bruisse la parole vulgaire de la plèbe. Mademoiselle Luce la méprise en ayant mesuré l'inanité. Elle aurait volontiers des haut-le-cœur quand on parle chiffon. Elle voudrait hausser les épaules à ouïr causer théâtre. Les conversations sur le temps la feraient vomir. Mais Mademoiselle Luce réprime son cœur, maîtrise ses épaules et ne vomit point. Elle sait l'indulgence que le sage, que la sage doit aux misères de l'humanité. Elle se contente de promener sur la populace ambiante des regards vagues qui vont, à travers les têtes de ses voisins, contempler dans l'au-delà des choses inaccessibles à tout autre. Il arrive que quelque plébéien téméraire ou innocent l'interpelle, lui adresse une question. Descendant de son nuage, Mademoiselle Luce laisse glisser quelques monosyllabes de ses lèvres sibyllines. On a vu quelquefois un phénomène singulier. Le bétail humain étant particulièrement abondant ou présentant, par un hasard inouï, quelques bestiaux d'une distinction appréciable, Mademoiselle Luce a daigné parler. Elle laisse échapper un flux de vocables étranges et inattendus qui sème l'ahurissement, le malaise ou l'envie de rire. C'est comme si une bande de grenouilles bondissait d'une chasse. Mademoiselle Luce expose une opinion d'Ibsen qu'elle réfute, fait allusion par prétérition à une maxime de Nietzsche, exprime le sens de la vie, détermine les conditions de la culture intensive du moi, élucide le féminisme, le socialisme, l'anarchisme, etc. Un silence suit ses paroles. C'est une douche glacée qui s'est répandue. La mère qui l'a enfantée la contemple comme une poule son caneton, avec un effarement non exempt d'orgueil. Il y a quelques murmures vagues, quelques soupirs, quelques paroles hésitantes. Enfin, on parle d'autre chose. Mademoiselle Luce reprend l'ascenseur et remonte dans la majesté de son nuage. C'est que Mademoiselle Luce a jaugé l'univers. Elle a approfondi les lois de la nature, les caractères des peuples, la valeur des idées. Ce qui est dans les livres et ce qui n'y est point, et les causes et les résultats de tout. On n'a pas eu besoin de vous lire pour que sa connaissance fût adéquate à la somme des choses. C'est de son propre fond qu'elle a tout tiré. Dans les peuples et dans les siècles, il n'y a que peu d'esprits avec qui elle puisse voisiner. Au Platon n'était pas un crétin. Mais quelque chose dans le Bouddha. Spinoza n'est pas fort, Kant est puéril. Mais le super-homme de Nietzsche est digne d'attention. D'ailleurs, Mademoiselle Luce n'a point lu ses auteurs, mais elle en a glané quelques bribes épaisses et a eu la divination du reste par la force de son génie. Dans cette tête que les ridicules de la mode affublent d'un chapeau à fleurs, gravitent les résultats de la sagesse humaine. Sous cette jaquette de loutre bat un cœur qui a mesuré toute souffrance et toute joie, et ces petits souliers vernis contiennent des bas qui ont la teinte du ciel de juillet, mais ce sont les jaloux qui l'affirment. Voyez plutôt. Mais comment Mademoiselle Luce ne susciterait-elle pas des jalousies? Les femmes ne peuvent pas la souffrir. C'est qu'elle a dosé la pauvreté de leurs âmes mesquines. Les hommes la fuient. C'est qu'ils souffrent de sa supériorité. Les jeunes gens l'évitent. C'est qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Et les enfants poussent des hurlements épouvantés quand par hasard, distraite, elle approche de leurs joues les lèvres qui citèrent Hegel ou les doigts qui feuilletèrent Schopenhauer. Et quand, suivant sa mère comme l'auguste vaisseau suit l'humble remorqueur, quand Mademoiselle Luce est sortie du salon, il y a un soupir universel, l'air circule mieux, un souffle de fraternité dilate les cœurs, des rires joyeux jaillissent et des propos peu bienveillants démangent le bruit des langues. Cependant, Mademoiselle Luce, microcosme, descend l'escalier, pleine de l'univers, indifférente aux femmes, dédaigneuse des hommes, indulgente aux jeunes gens et pitoyable aux enfants. Oui, elle daigne, quoique supérieure, s'apercevoir que ces êtres existent et elle condescend à l'indifférence, au dédain, à l'indulgence et à la pitié. Mademoiselle Luce est un serin. Mademoiselle Luce est une dinde. Mademoiselle Luce est une oie. Et si je savais des noms de volailles plus déplaisants, je les affecterais à son usage particulier. 3. Mademoiselle Alice. S'il vous arrive de rencontrer Mademoiselle Alice, faites, je vous prie, attention à sa délicate et mutine personne. Inutile d'ailleurs de vous la recommander. Certes, vous ne la laisserez point passer inaperçue. Tout au plus pourrez-vous la confondre avec quelques-unes de ses amies dont l'application à la copier est couronnée d'un plein succès. Voici qu'un vieux monsieur à gros ventre et à cheveux blancs s'approche d'elle et lui demande « Comment vous portez-vous, mon enfant ?» Il n'est pas vraisemblable que vous soupçonniez la succession de phénomènes que peut engendrer une question d'apparence aussi simple. Mademoiselle Alice est visiblement plongée dans le trouble le plus ravissant. Elle baisse ses paupières, qu'elle a frangées d'assez beaux cils, ondule des hanches et des épaules, relève ses yeux, les abaisse de nouveau, fait un petit dessin sur le tapis avec le bout de son ombrelle, regarde son gant, sourit avec pudeur, promène autour d'elle un regard malicieux et étonné. Non vraiment, est-ce à elle qu'on a fait cette demande? Envoie un clin d'œil au plafond, un autre au parquet, pince les lèvres, fronce les sourcils, rit tout à fait en découvrant ses dents qui sont blanches et bien rangées, et murmure avec une mignonne petite mine exquise. « Très bien, monsieur, je vous remercie, et vous-même. Vous êtes un peu étonné. Une certaine méfiance se lève dans votre âme. Il est impossible qu'un pareil trouble ne soit pas provoqué par une cause grave, obscure, peut-être inquiétante. Ce vieux monsieur n'a pas l'air vicieux, mais on rencontre comme cela des vieux messieurs qui ont l'air très convenables et qui ont des conversations tout à fait décolletées. Ces paroles ont peut-être un sens caché que soupçonne cette timide jeune fille. Adorable innocence! Vous ouvrez l'œil et vous dressez l'oreille, prête à intervenir s'il le faut. Le vieux monsieur reprend « Quel beau temps aujourd'hui !» Oh, c'en est trop. Mademoiselle Alice se renverse dans son fauteuil, puis se redresse brusquement. Elle se tortille comme si une bande d'insectes lui chatouillait le milieu du dos, adresse un signe de tête à Mademoiselle Aglaé, qui est à l'autre bout du salon, se croise les jambes, les décroise, trépigne un instant, les recroise brusquement, soupire d'un air attendri et violemment ému, se mouche, s'essuie le nez avec grâce, et enfin se penchant sur le bras du fauteuil, avec une attitude d'abandon, exhale d'une voix de cristal, d'une voix à la Sarah Bernard. Splendide! Oh, splendide, vraiment! Vous n'y comprenez pas grand-chose. Le vieux monsieur s'en va. Et vous apprenez que c'est un paisible commerçant, retiré des affaires, un vieil ami de la famille. Il paraît qu'il est encore plus innocent qu'il n'en a l'air. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce manège compliqué auquel vous avez assisté? Vous suivez les yeux, Mademoiselle Alice, et bientôt, vous comprenez. Elle s'est perchée à côté de Mademoiselle Aglaé. Toutes deux s'embrassent, caressent, becquettent, s'étreignent, rivalisent de mine, de mignardise et de minauderie, se tiennent la taille, s'accablent de petits signes mystérieux, se miment, se murmurent, se susurrent des chuchotis qui les font pâmer dans des rires argentins, se répondent en petits cris aigus et distraits, contournés en évolution compliquée. Elle ne marche pas, elle sautille. Elle ne parle pas, elle pépille. Ce sont deux petites perruches qui caquettent et se grattent le bec. Deux petits chiens savants qui dansent devant le public. Deux petits ouistiti évadés du palais des singes. Telle, vous la voyez, telle Mademoiselle Alice est dans toutes les circonstances de sa vie. Elle fait des grâces à son chocolat, est en coquetterie avec son papier à lettres, rougit devant les plantes qu'elle arrose, fait des manières avec ses pantoufles. Toute seule, elle se joue sans cesse une raffinée petite comédie. Elle ne saurait prendre une attitude qui ne soit calculée, prononcer un mot qui me semble préparé, faire un pas qui ne paraisse un fragment de quadrille. Il faut que son visage ait perpétuellement l'air agité, charmé, soucieux, ému, épouvanté, pensif, douloureux, et tout ce que vous pouvez imaginer. Elle se croirait déshonorée si elle avait un mot spontané ou un geste naturel. Il faut qu'elle ait son petit genre. C'est une petite poupée à ressort. Elle voudrait changer le mouvement qu'elle ne pourrait plus. Les mécaniques marcheraient toutes seules. Elle ne saurait pas plus dire bonjour simplement que sauter par-dessus son ombre. Et à 60 ans passés, elle roucoulera, zézera, criera et bécotera. Oh, mademoiselle Alice n'est pas méchante. Mais grâce à son travail, elle a complètement réussi à se rendre insupportable. Le masque collé à la peau, à force de se maquiller, des actrices ne peuvent plus se montrer à visage découvert. 4. Mademoiselle Herminie. Il y a des gens qui ont de la chance, tout leur réussit. Quoi qu'ils entreprennent, quelque maladroitement qu'ils se comportent, ils viennent à la boue de tout. Tout le monde leur est bienveillant et leur sourit. Il y a d'autres gens qui possèdent un tel fond de sérénité inaltérable, qui se tiennent satisfaits de tout, qu'ils prennent du bon côté tout ce qui arrive, s'égaient des contretemps, rient des mauvais propos, cueillent toute rose et s'égratignent gaiement aux épines. Ils sont tout à fait aussi heureux. Et il y a d'autres gens, enfin, si bien cuirassés, si durs et si insensibles, qui sont impénétrables à la méchanceté des hommes et à la malice des choses. Ils reçoivent les coups du sort comme des caresses. Ces aiguillons les stimulent au lieu de les blesser. Ceux-là encore sont enviables. Mais il y a aussi des natures sensibles, délicates et supraterrestres, pour qui cette vie est une véritable vallée de larmes. Elles souffrent trop de ces âpretés, se déchire à toutes les ronces, se heurte contre toutes les aspérités. Elle chemine saignante, navrée et douloureuse, froissée des choses, méconnue des hommes. Ah, celles-là, combien amère est leur destinée! Presque toutes, cependant, ont au moins quelques bribes de bonheur, quelques miettes de joie, quelques gouttes de douceur. Il n'y en a qu'une, à vrai dire, dont la vie n'est véritablement qu'une seule souffrance, dont l'âme est authentiquement qu'une seule plaie vive. C'est mademoiselle Herminie. Le vulgaire grossier, à la voir, ne soupçonnerait point l'amertume de son calice. Mais les grandes douleurs ne sont-elles pas souvent les plus voilées, les plus discrètes, celles qu'un héroïsme constant ou des apparences trompeuses peuvent dissimuler? Il n'est pas besoin d'un coup de mitraille pour abattre une fauvette. Quelques grains de plomb y suffisent. Sans doute, mademoiselle Herminie, si elle s'attachait aux bassesses de la vie, ne serait point dans la détresse. Peut-être, oui, peut-être, une âme tout à fait terre à terre se tiendrait-elle pour satisfaite de sa condition. Ses parents ont 50 000 livres de rente et l'adorent. Ses frères la taquinent, mais sont de braves garçons. Quoiqu'elle ait souvent les yeux battus et affecte de ne rien manger, elle a une santé de portefeuille et de pas désagréable à voir. Hélas, tout cela ne fait pas le bonheur. Qu'est-ce que cela, je vous prie, pour l'âme éthérée et sublimée, exquise et incomprise, de mademoiselle Herminie? Mademoiselle Herminie est le vase triste où sont venues s'égoutter toutes les souffrances de la terre. Quelle misère de se réveiller au matin dans un lit moelleux et de pressentir qu'il va falloir revivre la vie mesquine et banale. Oh, l'horreur d'absorber une tasse grossière de chocolat avec un croissant, ou quelquefois deux. Qui ne se sentirait odieusement souillé à rouler dans une voiture publique ou parfois, comble d'ignominie, à fouler de ses propres pieds un asphalte foulé par d'innombrables pieds humains. Et puis il faut manger de nouveau, manger, oh douleur, avec appétit, entendre causer, répondre, parfois sourire, oh sourire. Oui, elle sourit, cet ange. À peine quelques instants de rêverie mélancolique, de songe gris, d'imagination vaporeuse, et il faut reprendre le collier. C'est l'ignominie des visites, des commissions, des mille petits devoirs de la vie civilisée. Quelquefois, la nuit encore, il faut se rhabiller, ressortir et s'étouffer dans un théâtre ou dans un bal. Et pour terminer, chaque soir, c'est le refuge mystérieux du lit, sans doute douillet, mais inquiétant, au-dessus duquel voltigent déjà des songes sombres et des pensées sépulcrales. Et demain, il faudra recommencer, et après-demain encore. N'est-ce pas que tout cela est cruel et affreux et trop injuste? Ô destin, mais pourquoi tant souffrir? Mais pourquoi? Et encore, ce n'est pas tout. Si du moins les hommes savaient compatir aux doléances de Mademoiselle Herminie, si l'on s'apitoyait sur ses langueurs, si l'on soupirait à ses soupirs, si l'on se faisait une idée de ce qu'est la vie pour son âme de cristal, si l'on créait autour d'elle une tiède atmosphère de tendresse ouatée, brumeuse et soyeuse. Mais Mademoiselle Herminie est incomprise, elle est méconnue. Quelques poètes sont ses seuls vrais amis qui gémissent ses douleurs comme un cœur d'agneau bêlant. Elles se chantonnent leurs vers, les yeux mi-clos, tout blancs. Mais on ne la laisse même point essayer de charmer son angoisse. On la persécute, on la dérange, on prétend la distraire, la soigner. Pis, on la raille, on choque ses sensibilités raffinées, on se moque de ses extases, on blasphème ses mélancolies. Ah, cela c'est le plus cruel de tout. Faut-il vraiment que la malice humaine vienne s'ajouter à la cruauté immanente des choses? Profanation et ironie. Ah, ne vivre qu'à peine, torpide dans des langueurs avec de doux parfums, de lointaines effluves musicales, des clairs de lune, des nuées, des lys, des palmes, des anges, des blancheurs, des roseurs, des roses, des rosés, du gris bleu, bébé, bébé. Il y a une quinzaine d'années, le papa de Mademoiselle Herminie, dans de certaines circonstances, relevait par derrière ses jupes et mettait plusieurs fois sa main en contact avec une partie déterminée du corps de cette jeune personne. Il est très fâcheux qu'il ait laissé tomber cet usage en désuétude. Cela donnerait plus de précision aux mélancolies de Mademoiselle Herminie. Elle y puiserait d'une idée moins confuse des souffrances de la vie.